Sébastien Lévy. Vous êtes le correspondant aux États-Unis des Cahiers Bernard Lazare et très souvent nous faisons appel à vous pour avoir un éclaircissement sur la situation aux États-Unis. De plus, vous êtes membre de J Street, mouvement des Juifs américains pro-démocrates et pour la paix au Proche-Orient. Voilà, donc la semaine dernière était une semaine particulièrement importante, d'une part à cause du voyage du Premier ministre israélien pour la première fois depuis 4 ans aux États-Unis, où il a pu tenir un discours devant le Congrès, on va y revenir, et puis par la décision de Joe Biden de ne pas se représenter aux élections du mois de novembre prochain, et de laisser, pour l'instant, n'a pas été encore endossé par l'intégralité du Parti démocrate, mais la perspective de voir sa vice-présidente Kamala Harris devenir la candidate démocrate. Alors, première question, à propos du voyage de Netanyahou aux États-Unis, où il a pu s'exprimer au Congrès, on a d'abord constaté que pour la première fois, il y avait beaucoup d'absents dans les travées du Congrès, plusieurs dizaines de membres du Congrès et sénateurs ou représentants démocrates n'étaient pas présents. Est-ce que cela veut dire qu'il y a une scission dans l'approche bipartisane qu'a Israël, comme d'habitude, vis-à-vis des deux grands partis américains?
Oui, bah effectivement, je suis complètement d'accord. C'est sans doute le fait majeur, d'ailleurs. C'est évidemment pas ce qui a été retenu en Israël. Ce qui a été retenu en Israël, notamment par Netanyahou, ce sont été les standing ovations, des applaudissements extrêmement nourris. Mais effectivement, lorsqu'on le rentre un petit peu dans le détail, il y avait environ uniquement 100 démocrates sur les 200 congressmen, donc membres de la Chambre basse, et 28 sénateurs démocrates sur les 52 de la majorité démocrate. Donc il y a quand même énormément de déperditions. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est absolument pas uniquement l'aile gauche la plus anti-israélienne qui n'était pas là. Vous aviez des gens comme, par exemple, James Clyburn, un très proche de Joe Biden, qui n'était pas là. Nancy Pelosi, qui a toujours soutenu Israël. Ou un Dick Durbin, qui est le numéro 2 des démocrates au Sénat. Et ce qui est intéressant, je pense qu'il faut distinguer ce qui est la perte du soutien bipartisan à Israël de plutôt le rejet croissant de beaucoup de démocrates envers Netanyahou. Et ce sont donc deux choses extrêmement différentes. Nancy Pelosi, elle demeure pro-israélienne. Dick Durbin, il demeure pro-israélienne, israélien, pardon. Donc ce n'est pas ça qui est en jeu, c'est vraiment l'agacement que Netanyahou provoque au sein des démocrates, et ce depuis des années, en particulier depuis 2015, sa précédente venue au Congrès, qui avait vraiment marqué un divorce extrêmement net, où il avait clairement, il avait vraiment trahi, je dirais, les démocrates en s'invitant directement devant le Congrès républicain pour torpiller l'initiative diplomatique d'Obama à l'époque sur le nucléaire iranien. Donc je pense que c'est important de bien distinguer ce qui est la fin du bipartisanisme envers Netanyahou et du soutien bipartisan envers Israël, qui demeure encore extrêmement vivace à Washington.
D'accord. D'ailleurs, Kamala Harris, qui est normalement de sa charge, là, aurait dû être présente, n'était pas présente non plus, je crois.
Exactement. Et Kamala Harris, bon, alors on pourrait revenir, n'est pas suspecte d'anti-israélien, de préjugés anti-israéliens. Je pense qu'elle a fait aussi de la politique et c'est de bonne guerre. Netanyahou est extrêmement impopulaire aux États-Unis et pas uniquement auprès des anti-israéliens. Donc c'était aussi le moyen, je dirais, facile d'envoyer un signal à son électorat. Et notamment auprès des plus jeunes qui peuvent être plus critiques envers la politique du gouvernement Biden en ce moment vers Israël. Et c'était un moyen aussi de manifester la mauvaise humeur de l'administration Biden envers Netanyahou. J'ai rajouté une chose également au sujet de cette visite. Il y avait par exemple le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, qui était là. Mais normalement, ils se connaissent depuis des années. Chuck Schumer n'a même pas serré la main de Benjamin Netanyahou. Chuck Schumer, c'est l'élu juif le plus haut placé aujourd'hui à Washington. C'est vraiment quelqu'un qui a vraiment une légitimité pro-israélienne extrêmement forte depuis 40 ans. Mais même chez lui, même chez Chuck Schumer, la défiance envers Netanyahou est très forte. Et beaucoup de gens d'ailleurs disent qu'il fallait le génie de Benjamin Netanyahou pour être capable de perdre Chuck Schumer dans son soutien à sa propre personne.
C'est vrai que dans la presse israélienne, on a surtout retenu le standing ovation, les nombreuses fois où le Premier ministre a été applaudi, mais visiblement par les républicains qui s'en servent d'ailleurs dans la campagne électorale américaine pour attaquer les démocrates pour leur manque de soutien à l'égard d'Israël. Enfin, c'est comme ça qu'ils présentent les choses. Alors, l'autre point, effectivement, c'est la décision donc, de Joe Biden de ne pas se représenter et de Kamala Harris d'endosser la candidature en attendant que celle-ci soit validée par le futur congrès qui va se réunir, je crois, vers la mi-août pour endosser le candidat ou la candidate. Alors, est-ce qu'on peut dire à ce sujet qu'il y a une différence d'approche vis-à-vis de la situation au Proche-Orient et d'Israël en général entre Joe Biden et Kamala Harris?
Alors, c'est la grande question en ce moment à Washington. Sur le fond, il n'y a sans doute pas énormément de différence. En revanche, je pense qu'il y a vraiment une différence d'approche, différence, je dirais, quasiment sentimentale entre les deux. Je pense que Kamala Harris aura sans doute une approche beaucoup plus froide que Joe Biden par rapport à Israël. Joe Biden, il se définit comme sioniste. Joe Biden, il a une vision d'Israël qui est peut-être un petit peu, je dirais, datée aujourd'hui. Il a connu Golda Meir, il a connu Menachem Begin, il a connu Yitzhak Rabin. Pour lui, c'est l'Israël qu'il a connu. Il a aussi connu Israël dans ses temps troublés. Alors, il est rentré en politique au début des années 70. C'était un autre Israël. Il a toujours gardé d'Israël, je dirais, une vision un petit peu sans doute mythifiée. Et il a vu l'évolution récente d'Israël comme, je ne veux pas dire comme une aberration, mais comme quelque chose qu'il a vécu avec beaucoup de douleur. Kamala Harris, c'est différent. Kamala Harris, elle avait 13 ans lorsque le Likoud a pris le pouvoir en Israël, lorsque la colonisation a commencé. Elle en avait 30 quand Benjamin Netanyahou a pris le pouvoir une première fois. Et donc, pour elle, elle a moins, je dirais, cet aspect, cette approche sentimentale envers Israël. Je ne suis pas certain que Kamala Harris se définisse comme sioniste comme peut le faire Joe Biden. Je pense qu'elle est sans doute plus par la même, sans doute plus sensible, et elle exprime avec des mots plus forts la souffrance des Palestiniens, et notamment dans cette guerre de Gaza, et les aspirations du peuple palestinien à un État. C'est psychologiquement un petit peu difficile pour Joe Biden de dire un certain nombre de choses contre Israël, parce qu'il y a encore ce rapport, je dirais, mythifié au pays. Donc, il est fort possible qu'en termes de, je dirais vraiment, les éléments très très concret de la politique, comme la livraison d'armes à Israël, comme les vétos à l'ONU, il n'y aura pas de différence majeure. En revanche, sur le ton, oui, il est possible que ce soit différent, et ce d'autant plus qu'électoralement, Kamala Harris y a tout intérêt. On l'a vu, en fait, il y a déjà un premier effet dans les sondages chez Kamala Harris. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce bond dans les sondages qu'elle réalise, elle le réalise essentiellement chez les minorités et chez les jeunes, qui avaient été le plus critiques envers Joe Biden et sa politique par rapport à Israël depuis la guerre de Gaza.
Et dans les 6 mois à venir, qui sont faits jusqu'aux élections, enfin, Joe Biden est toujours le président, c'est lui qui définit la politique, mais est-ce que vous pensez que Kamala Harris aura plus son mot à dire, ou est-ce que ça sera toujours, disons, Joe Biden qui donnera le ton parce que la situation est toujours si bloquée et on ne voit pas pour l'instant d'accord ni de cessez-le-feu, ni d'accord d'échange pour récupérer des otages?
Je pense sans doute qu'il y aura une coordination des messages avec peut-être un good cop, bad cop. Il n'est pas d'ailleurs, on sait que c'est pas très clair d'ailleurs qui sera le good cop, qui sera le bad cop. C'est lui qui dira les messages difficiles et les messages un peu plus, je dirais, chaleureux envers Israël. On peut s'attendre à ce que vraiment il y ait une répartition des rôles et que Kamala Harris, pour les raisons politiques que je venais d'évoquer, soit évidemment associée à toutes les décisions de Joe Biden et soit peut-être amenée à, elle, tenir des propos parfois un petit peu plus durs, je dirais publiquement, parce que ça peut d'abord aider Joe Biden à peut-être faire passer des messages que lui ne veut pas faire passer, et puis ça l'aidera politiquement. Donc je dirais que, vous savez, il y a deux mots en anglais pour dire politique. Il y a politics et policy. Policy, c'est, je dirais, ce sont les actes politiques, c'est la nature de la politique, et politics, c'est la politique politicienne. Là, il est fort possible que ce soit pour la même direction, c'est-à-dire essayer d'avoir une nouvelle policy, c'est-à-dire une action peut-être un peu plus ferme envers le gouvernement israélien, et c'est aussi good politics, parce que ça permet à Kamala Harris, je dirais, de recoller les morceaux avec une partie de l'électorat. Donc on peut s'attendre sans doute à une vraie coordination entre les deux camps, parce que, et j'insiste, il n'y a pas sur le fond de différence majeure entre Kamala Harris et Joe Biden. Kamala Harris, par exemple, n'a jamais fait partie de l'aile gauche du Parti démocrate, elle n'a jamais eu des propos anti-israéliens, et ça, c'est dans tout son parcours politique, c'est extrêmement clair. Donc oui, on peut s'attendre à une coordination totale sur ce sujet.
D'ailleurs, à propos du futur vice-président, si Kamala Harris est élu, enfin qui sera sur son ticket en tout cas, on parle de Shapiro, Josh Shapiro, je crois, qui est oui. un sénateur juif, c'est bien cela ?
C'est un gouverneur, c'est le gouverneur de Pennsylvanie qui a été élu il y a 2 ans, extrêmement populaire dans son État, c'est un État extrêmement important pour gagner la Maison-Blanche, et puis ça permet de, je dirais, de peser dans le Midwest, donc ça permet aussi de gagner des États comme le Michigan, le Wisconsin, qui sont très importants. Il est juif, je dirais, il s'affirme comme extrêmement juif. Pendant sa campagne, il faisait des vidéos depuis son dîner de Shabbat avec sa famille, donc c'est vraiment un juif qui s'affirme comme juif. Et puis il faut rappeler, même si encore une fois, ce n'est pas ça qui dicte la politique de Kamala Harris, son mari est juif, elle élève ses 2 belles-filles dans la religion juive, et d'ailleurs, il y a une boutade qui a été utilisée par son mari, Doug Emhoff, qui a dit que si elle est élue, il y aura sans doute une mezouza à l'entrée de la Maison-Blanche. Donc voilà, je pense que c'est quand même important de rappeler qui est Kamala Harris par rapport à Israël, par rapport au peuple juif. Elle va être évidemment dépeinte comme sans doute une anti-israélienne, comme une antisémite par l'aile droite du Parti républicain. C'est exactement ce qu'ils avaient fait avec Barack Obama. Le fait qu'elle soit noire permet aussi toutes les confusions, Black Lives Matter, etc. Mais encore une fois, quand on regarde le fond de la politique, on est vraiment face à quelqu'un qui est foncièrement dans l'aile pro-Israël du Parti démocrate. Et puis évidemment, si en plus il peut y avoir Josh Shapiro, ça serait une consécration pour les Juifs américains.
Alors, dernière question, c'est à propos de Donald Trump, qui a finalement reçu Netanyahou, qu'il n'a pas revu également depuis 4 ans. Rappelons que Netanyahou a reconnu l'élection de Biden. De toute façon, il pouvait difficilement ne pas le reconnaître puisqu'il avait été élu, et qu'à cette occasion, Trump avait proféré je ne sais plus quel mot doux à l'égard de Netanyahou qui l'avait trahi en reconnaissant l'élection de Biden il y a 4 ans. Et ils se sont vus. Qu'est-ce qu'on peut dire de la position de Trump aujourd'hui par rapport à Israël et à Netanyahou?
Déjà, en fait, il a fallu quand même se battre pour Netanyahou pour obtenir cette rencontre. Ce qui est très intéressant, c'est que Donald Trump a clairement fait savoir que la rencontre avait été décalé du jeudi au vendredi à la demande de Netanyahou. Donc c'était un petit coup de pied en fait qui avait été fait de la part de Trump pour dire en gros que Netanyahou souhaitait sans doute passer Shabbat aux États-Unis. Et donc c'était pour encore le mettre en difficulté. Oui, on le sait, Donald Trump a la rancune tenace. Il a besoin, je dirais, d'apparaître comme assez amical en fait avec la droite israélienne par électoralisme. On sait que pour les chrétiens évangéliques qui forment vraiment le cœur de sa coalition d'électeurs, Israël est un sujet aussi important que l'avortement, donc c'est fondamental d'apparaître cyniquement comme pro-israélien, ça oui. En revanche, la relation Trump-Netanyahou, qui n'a jamais d'ailleurs été une excellente relation personnelle, est une relation qui a été entre guillemets abîmée. Maintenant, chacun fera ce qu'il faut d'un point de vue cynique pour je dirais, présenter un visage d'entente cordiale, mais ça n'est que ça. Il n'y a absolument pas d'amitié entre les deux hommes.
Il n'y a pas beaucoup d'amitié en politique avec des intérêts. Et les deux ont intérêt aujourd'hui à maintenir cette illusion, enfin, vis-à-vis, comme vous le dites, des fondamentalistes chrétiens. Pas tellement l'électorat juif qui reste.
Non, pas du tout.
Qui reste voté à plus de 70% pour les démocrates. Et quant à Netanyahou, ça lui permet de redorer son blason en Israël. Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup Sébastien Lévy de nous avoir informé de la situation aux États-Unis. On aura l'occasion certainement d'en reparler dans nos prochaines émissions jusqu'au mois de novembre prochain. Ici David Kamara, qui a animé la nouvelle émission de Chronique pour la paix. À dans 15 jours.